celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour reposer la tête. Mais le Fils de l'homme n'a pas de pierre pour reposer sa tête. Pour suivre le Christ, il y a une exigence, il faut tout laisser. Abandonner nos habitudes, accepter tout. Si Jésus ne se montrait pas aussi exigeant avec nous, cela voudrait dire que notre relation avec lui n'est pas différente que celle que nous entretenons avec les autres hommes. Avec nos parents, les membres de notre famille. Or, la relation que nous avons avec eux est totalement différente. Parce que il est envoyé par le Père. Il est Dieu vivant et envoyé par nous. Envoyé pour nous. Et nous le recevons comme étant envoyé par le Père. Et comme étant Dieu lui-même, envoyé par le Père pour nous. Et quand on meurt, si on a un seul regard, au moment où Jésus vient nous chercher, envoyé par le Père, pour que nous soyons des engendrés éternels du Père à jamais, et qu'on regarde en arrière vers nos enfants, vers nos amis, c'est qu'on n'est pas tout à fait... C'est qu'on est impropre pour le royaume de Dieu. Parce que si on a engendré des enfants, c'est pour précisément leur apprendre que c'est Dieu qui passe en premier et que Dieu est l'accueil du bon Dieu. Le fait de recevoir cette mission visible et invisible de Dieu lui-même qui donne toute sa vie. Nous sommes divins avant d'être humains. C'est pour ça que laisser les morts enterrer leurs morts. Après tout, laisse-moi dire d'abord adieu aux gens de ma maison. Laisse d'abord. Celui qui regarde en arrière aussi. Elle est belle cette formule. Celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière est impropre pour le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Celle-là, elle est belle aussi, c'est vrai. Elle est très belle. C'est à cause de cette formule, d'ailleurs, qu'on dit que... c'est l'humanité, c'est Adam, depuis Adam jusqu'à la fin, jusqu'au dernier homme de la terre, à cause du péché originel. Dieu envoie son Fils, Dieu se donne entièrement à nous, puisque notre humanité n'a pas voulu se donner à elle-même. Alors pour remplacer par miséricorde, puisque tu n'as pas voulu ton humanité, je te donne ma divinité, et je t'envoie ma vie divine elle-même. Tu ne l'avais pas participation, tu l'as perdue, il ne reste plus qu'une humanité. Me l'a poussée vers la bête et vers le démon, à cause des trois concupiscences. Alors je te donne mon humanité à travers une goutte de sang, à travers la croix, la sagesse de la croix. Je viens vers toi pour venir par le dessous de ta détresse, puis me donner moi-même pour compenser tout ce que tu aurais pu faire, tout ce que tu aurais dû faire, tout ce que Dieu aurait dû faire à travers toi. Eh bien, c'est moi qui le fais. Tu me reçois, c'est tout. Et depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde, c'est comme ça. Alors on reçoit le don parfait, la mission invisible et visible de Dieu. Parce que Dieu se donne visiblement à nous, en entier, envoyé par Dieu. Et tout ce qu'il reçoit comme étant Dieu lui-même, eh bien, nous devenons enfants de Dieu. Et à ce moment-là, les générations humaines n'ont plus une signification, n'ont plus la signification principale pour nous. C'est la génération divine qui devient la signification principale, qui devient le principal de notre vie. C'est pour ça, celui qui met la main à la charrue, par exemple, celui qui est baptisé, celui qui vit des sacrements, celui qui reçoit Dieu, le bon Dieu, celui qui accueille Dieu lui-même, à l'intérieur de lui, s'il retourne en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il prie, s'il vit pour avoir le bonheur sur la terre, s'il vit pour retrouver la grâce du paradis terrestre. Elle est belle, la grâce du paradis terrestre, parce qu'après tout, on est sur la terre, on a la grâce sanctifiante. Adam et Ève, ils avaient la grâce sanctifiante. Ils pouvaient par la foi devenir de plus en plus saints, de plus en plus charité surnaturelle, de plus en plus d'espérance, de plus en plus de... Voilà, ils avaient une vie, ils ne devaient pas mourir. Et de avoir une vie de plus en plus sainte, de plus en plus parfaite, de plus en plus divine aussi. Et la participation et l'intimité divine devait augmenter, et tout ce qui était autour d'eux leur était soumis, et le démon ne pouvait pas approcher. C'est ça, retourner en arrière. Maintenant qu'il y a le péché originel, si c'est Jésus est venu, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les arbres du paradis ne sont plus pour nous. Ils ne sont plus pour nous. C'est l'arbre de la croix qui nous donne évidemment infiniment plus. Donc si, ayant l'arbre de la croix, on retourne en arrière pour désirer avoir le jardin terrestre de la vie, de la participation à la vie divine, dans la sagesse accomplie, la science infuse, la joie infuse, la paix infuse, tous les dons préternaturels, la maîtrise de toutes choses, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas pour le royaume de Dieu. Ça veut dire que notre participation, notre désir de participation à la grâce divine, c'est pas par amour de Dieu. Et donc, on n'est pas pour le royaume de Dieu. Parce que même Adam et Ève, même quand ils n'étaient pas encore dans le péché originel, oui, vivait pour l'amour de Dieu. Tandis qu'après le péché originel, si on désire être dans l'amour de Dieu, si on désire être dans l'amour de Dieu, et vivre de la grâce, mais dans une bonheur de paradis terrestre, eh bien, à ce moment-là, en fait, c'est un signe qu'on n'aime pas Dieu. C'est ce qui est facile à comprendre. C'est ce qui est facile à comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a toute une sorte de... toutes les spiritualités. Comme par exemple, on appelle le Nouvel Âge, le New Age, le Nouvel Âge. Toutes sortes de religions, les dervis tourneurs dans l'islam, c'est pour retrouver des dons et un état qui est originel, l'hindouisme. Certains hindouismes, comme par exemple celui de Sri Aurobindo, c'est un retour brahmanique à l'état originel. De lumière dans un plasma divin merveilleux, quoi. C'est un retour au paradis terrestre. Et bien celui qui, après le péché originel, se trouve devant Jésus, qui se donne entièrement à lui, de manière explicite et implicite. Donc explicite chez les catholiques et implicite chez tous les autres, sans exception. Et qui désire retrouver les états préternaturels du péché. Du paradis terrestre, quelles que soient les voies d'accès. Et les voies d'accès sont toujours d'ordre métapsychique et jamais d'ordre spirituel. Donc celui qui regarde en arrière est obligé de prendre une voie métapsychique. Et donc ce sera un amour métapsychique, ce ne sera pas un amour humain, ce ne sera pas un amour spirituel, ce sera un amour cosmique. Et l'amour cosmique, lui, eh bien il est lié aux puissances déchues. Donc celui qui se sert du véhicule, c'est le cas de le dire, des puissances déchues et des fréquences métapsychiques, il peut être sûr qu'il n'appartient pas au royaume de Dieu. Celui qui regarde en arrière est impropre pour le royaume des cieux. C'est comme ça qu'on fait finalement à bien regarder, à bien le regarder. Et bien, ce que Robin Dore, le moine tibétain qui vous ouvre tous les chakras pour que vous puissiez rentrer dans un état de lumière, jusque dans les origines de la création et même les accomplissements. Le nouvel âge, les énergies, toutes ces nostalgies du paradis, les énéagrammes par exemple, les gnoses, les énéagrammes, c'est retrouver un état semblable à celui qu'on avait métapsychiquement dans une innocence divine originelle, avant qu'on soit frappé par les éclatements de l'unité profonde qu'il y a entre nous et Dieu dans l'amour et la lumière de la création. Alors du coup, effectivement, notre unité originelle dans la mémoria Dei, étant donné qu'il y a eu ces éclatements à cause de cette propagation, et puis aussi de notre liberté, sa manière à elle de s'exprimer, on est obligé de se déplacer dans le rayonnement des bienfaits, de l'innocence, de l'union avec Dieu, encore là. Et on s'est déplacé dans des intérieurement, dans des compulsivités essentielles, originelles, qu'on appelle les énéagrammes. Mais ceux qui rentrent dans les énéagrammes, ben, le roi m'a parlé là-dessus. Attention, ça c'est Gurdjieff, ça c'est la gnose de Babylone. Bien sûr, c'est de retourner à quelque chose qui est originel en nous. Et qu'on peut... Mais on ne peut pas demander à Jésus de baptiser ça. Moi je veux, Seigneur, que ce soit mes origines, j'allais dire dans les éclatements de l'âme, qui soient baptisés. Et non, parce que les éclatements de l'âme m'ont mis dans le péché, et donc dans des choix qui ne sont pas ceux de la memoria Dei, mais qui sont ceux de l'âme qui se retrouve séparée de la grâce. Aussitôt que la propagation du péché originel, aussitôt il n'y a plus la grâce sanctifiante, il n'y a plus la grâce, il n'y a pas la grâce. Aussitôt qu'Adam et Ève ont fait le péché originel, aussitôt la grâce sanctifiante a disparu d'eux. Il n'y a plus, ils sont en état de péché mortel. Et le centre de gravité de notre vie, même 9 mois avant la naissance, enfin 8 mois et demi, même 9 mois avant la naissance, en état de péché mortel, c'est ça, les énéagrammes, c'est ça, les centres de gravité profonds, mais ils émanent quelque part par rayonnement et surabondance de l'innocence originelle. C'est sûr, parce que la grâce de l'innocence est toujours là, et la mémoria, elle est permanente. La liberté du temps est toujours là, entravée, mais elle est paralysée parce qu'elle n'a plus la grâce sanctifiante. C'est pour ça qu'il faudrait inventer quelque part, et je crois que c'est ça, la grâce d'aujourd'hui, la grâce du cinquième saut de l'Apocalypse, la grâce de l'innocence divine, crucifiée et triomphante, que nous montrent ceux qui sont sous l'autel pour parfumer les portes de la Jérusalem d'en haut, dans un sacrifice sublime, divin et perpétuel, dans les noces de l'agneau. Il faudrait qu'il y ait une liturgie. En fait, Saint Jean-Baptiste, en ce moment, ces jours-ci, une liturgie de baptême de notre conception. Il faudrait qu'il y ait une liturgie de baptême de notre conception. Or, on ne baptise pas notre conception. Hein, quand un enfant il naît, eh ben, on baptise l'enfant qui vient de naître. Il y a un évêque qui a dit, il n'y a pas longtemps, « Oh, les enfants qui sont avortés, il n'y a pas de péché originel pour eux. » Et je crois que c'est pas vrai. quand je dis je sais que l'enseignement de l'Église enseigne que le péché originel, il est dans l'enfant avant sa naissance. Et donc, oui, je pense que les parents, restant dans une famille chrétienne, d'ailleurs, c'est une tradition, doivent avoir ce souci de baptiser un enfant dès qu'il est conçu. Évidemment, ce n'est pas eux qui maîtrisent l'instant de l'apparition de l'âme de l'enfant, mais ils peuvent quand même savoir à un moment donné que l'enfant est conçu. Et aussitôt, ils devraient avoir ce souci de baptiser l'enfant. Ne pas attendre 9 mois. C'est, je crois, ça. Je crois que ça, c'est ça va devenir nécessaire si on veut que notre enfant puisse échapper à cette espèce d'instinct de retourner en arrière au jour de l'Antichrist. Parce que la tentation au jour de l'Antichrist sera extrêmement puissante. La métatentation va se muer en plus qu'une tentation quelque part, puisque ce sera une tentation invasive, compulsive, générique. Alors, pour être préservé, pour avoir au moins une force dans l'innocence divine, crucifiée, triomphante, triomphant dans l'innocence divine de notre Seigneur Jésus-Christ, portée dans la goutte de sang qui se trouve dans la coupe, de l'interface de la nature humaine dans l'Immaculée Conception, eh bien, il faut bien sûr qu'il y ait cette consécration par le baptême dans la goutte de sang qui fait la Sainte Famille. Et la Sainte Famille, pour moi, c'est cette Pentecôte de sang. La Pentecôte de sang, c'est une seule goutte de sang en trois conceptions. Celle de Jésus, celle de Marie et celle de Saint Joseph. Parce que Jésus, ça a été tout de suite. Marie, ça a été sans médiation. C'était au premier instant. Si Jésus, cette conception, est engendrée, non pas créée. Et si Saint Joseph, elle est après. Et donc, les trois ensemble sont un. Quand on fait une seule goutte de sang, il ne faut pas oublier que Jésus est ressuscité, que Marie est ressuscité, que Saint Joseph est ressuscité. Et donc, leur conception à chacun est ressuscitée. L'instant de leur conception est glorieuse. Elle est dans l'instant de la résurrection. Quand on est dans la gloire de la résurrection de la chair, on peut revivre chaque instant de sa vie sur la terre d'une manière ressuscitée et glorieuse, c'est-à-dire avec la lumière de gloire qui embrase sans le détruire. Le corps vivant et lumineux sorti des mains de Dieu, dans l'unité de l'un, dans l'indivisibilité de Dieu. Eh bien, les trois sont une seule conception. Je crois que la Pentecôte de sang, c'est ça. C'est quand l'union hypostatique de Jésus, dans sa conception, dans son origine, 9 mois avant Noël, l'Immaculée Conception, qu'elle dont on sait qu'elle est la surabondance, une cause méritoire de toute une vie, dès la conception de Saint-Joseph, et Saint-Joseph, lui aussi, qui est, au fond, dès la conception, quelqu'un qui, immédiatement, mais dans l'instant d'après, c'est beau ça, qui est l'instant d'avant et qui est éternel pour Jésus, l'instant immédiat qui est l'Immaculée Conception, et l'instant d'après qu'est Saint-Joseph. Il y a quelque chose là-dedans, c'est sûr. Parce que quand les trois sont un, une seule goutte de sang, trois gouttes de sang de un, eh bien, il y a un nid, il y a un bassin, il y a une coupe de prédilection. perfection dans laquelle je peux être plongé. Je peux être plongé et baptisé dans cette Pentecôte de sang. Je ne sais pas si c'est compliqué ce que je dis, mais il faut que la révélation du cinquième sceau de l'Apocalypse montre à tous les enfants de Dieu comment ils doivent faire lorsqu'ils engendrent des enfants de Dieu au ciel et à la terre. Ils doivent les baptiser dans la Pentecôte de sang aussitôt qu'ils sont conçus. C'est-à-dire dans l'instant d'après. Ça ne peut être que dans l'instant d'après. Mais dans l'instant d'après, il y a, à cause de la résurrection de Saint-Joseph, de quoi les plonger dans l'instant présent, d'aujourd'hui, à l'intérieur de l'instant éternel, puisqu'il est engendré, non pas créé, c'est sûr. Et à ce moment-là, sans doute qu'il y a une grâce de baptême qui permet d'avoir une force divine, de ne pas retourner en arrière et ne pas tomber dans la tentation. Peut-être pas d'agir, parce que dans notre origine, dans la mémoire d'Adi, nous sommes dans un état essentiellement passif. On est dans une passivité du oui, un acquiescement d'une friction merveilleuse, un acquiescement. Une capacité de recueillir, d'accueillir, de recevoir. Mais en mettant notre acquiescement, en mettant toute notre complaisance, notre connivence, notre jouissance, nos profondeurs dans la réception du don, c'est ça la liberté du don. C'est à la fois dans les plus hautes splendeurs des hauteurs de Dieu, dans l'inscription de l'Église, et en même temps, dans les plus grandes profondeurs. Du don, la plus grande profondeur intérieure du don en même temps. Et il y aurait toute une liturgie à créer, parce que Saint Jean-Baptiste a créé une liturgie qui n'existait pas sur les 12 pierres qui étaient dans le Jourdain, sur lesquelles l'arche avait été posée, et les eaux avaient reflué à droite et à gauche. Elle avait fait un barrage à gauche et les eaux avaient disparu à droite. Et c'est sur ces 12 pierres-là que Jean-Baptiste baptisait, que Jésus a été baptisé par Jean le baptiseur, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire tous les morts vivants, Jésus vivant à travers lui. Il a inventé une liturgie qui était dans les préceptes, si on veut, mais pas explicite. Pas explicite, les 613 préceptes sont explicites. On peut dire que c'est le 614e précepte. C'est le baptême de Jean-Baptiste. 6, l'annonce, toute pure et divine. 14, le chemin de croix. Le 614e précepte. Et bien, dans l'ouverture du 5e saut de l'Apocalypse, le grand saint de la terre, la grande mission d'Israël, le sommet et le débordement des 613 préceptes, dans le 615e, si je puis dire. Ben c'est ça, c'est l'annonce que dans l'un, l'unité du Père, l'immaculée conception est donnée dans toutes les dimensions de l'homme. 615e précepte. 6, 1, 5. Et il y a une liturgie, c'est ça la sainteté, c'est ça la mission d'Israël. Il faut qu'il y ait ce souci, quoi, de la sponsalité, d'une sponsalité responsable, de tout ce qui dispose à la conception, que tout ce qui dispose à la conception soit engolfé dans la nuit aquatique de l'âme à l'intérieur des océans, du cinquième saut de l'Apocalypse. C'est-à-dire la Pentecôte de l'eau, la Pentecôte de la goutte d'eau, de la Pentecôte de l'Immaculée Conception, et de là, qu'il y ait une vie dans le baptême de la Pentecôte du sang. Et ainsi, comme ça, l'eau et le sang peuvent nous porter à la disposition petit à petit, petit à petit, petit à petit. Peut-être faudra-t-il des années, des mois, des jours. À cette disposition finale de la réceptivité toute pure du paraclet. Et lorsqu'il y aura cet accomplissement, moi je dis symboliquement qu'il faut 19 ans pour ça. Pas seulement symboliquement, c'est aussi un calcul scientifique, hein, puisque c'est le renouvellement de la memoria dei dans le monde incarné, notre vie, où la vie divine, l'âme humaine, l'esprit humain et le corps humain dans le oui originel d'une liberté totale, se multipliant, atteignent la purification. Puis la divinisation, donc il faut 19 ans. C'est le temps qu'il faut au corps de l'homme pour se renouveler. Alors il se renouvelle dans la vie purgative, d'abord illuminative, parce que, et puis ensuite dans la vie divine, dans la glorification, à travers le corps spirituel venu d'en haut. Alors à ce moment-là, une partie, petit reste de l'humanité, caché, humble, royal, dans la grande chevauchée de l'épousée, de l'apostolat johannique, de l'apocalypse de la fin, va parcourir comme ça, dans une humilité vue du ciel seul. C'est le cheval blanc de l'apocalypse. Parce que tout le monde ne verra qu'une seule chose, c'est le cheval blanc, c'est le cheval vert, pardon, le cheval noir, le cheval. Les trois chevaux, quoi, le cheval rouge, ça on les verra, cela. Le cheval blanc, personne ne le voit. Personne ne le verra. Et celui qui le chevauche a un grand manteau, il est recouvert du manteau de l'Apocalypse, qui est trempé dans le sang, le baptême du sang. Et sur sa cuisse, c'est-à-dire sur sa fécondité, qui est ici, là, sur le côté. C'est marqué le Verbe de Dieu, c'est vraiment le baptême à ce moment-là. Du paraclet, lorsque le paraclet lui-même est englouti dans le don à ce moment-là. L'eau, le sang, le paraclet. Les trois disparaissant, forment une disponibilité, une assomption possible, méritoire, qui permet ce petit reste de recevoir, d'accueillir, de s'ouvrir, d'être emporté à l'intérieur du don et de l'accueil du don dans le paraclet. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose de la matière, du corps, du vivant et de l'Église qui va s'ouvrir et qui va ouvrir la terre, ouvrir l'univers et faire que l'antéchrist et la bête de la mer et puis la bête de la terre aussi soit absorbée, j'allais dire, dans l'Aquilon, c'est-à-dire dans le Tartare, et il n'y aura plus jamais d'antéchrist sur la terre. Alors à ce moment-là, oui, il y aura cette possibilité de pouvoir célébrer le sixième saut de l'Apocalypse, les noces de l'agneau. Les événements ne se font pas en un seul jour. Il y a un baptême, et c'est pas interdit de parler d'un baptême qui n'existe pas dans la liturgie. Et c'est Saint Jean-Baptiste qui nous montre ça. Et c'est le roi, c'est un baptême qui est nécessaire, c'est pas du tout. C'est la charité qui nous presse, c'est l'amour du Christ qui nous prend, l'amour du Christ qui nous saisit, s'empare de nous, qui nous brûle. Il dit, on ne peut pas laisser la plus grande partie de l'innocence humaine comme ça sans baptême, ce n'est pas possible. Alors du coup, l'Église avec le Saint-Père, Jean-Paul II, puis Benoît XVI, ils disent, mais oui, il faut s'occuper des enfants, ils doivent être baptisés. C'est pas après la naissance, c'est avant la naissance. C'est sûr. Et le pape a dit, remercier quoi, ceux qui le faisaient, parce que même s'ils ne le faisaient pas d'une manière, selon les rubriques d'une liturgie de Saint-Pie V, on ne peut pas le faire à travers la messe Saint-Pie V, puisque le pape Saint-Pie V, exprès, volontairement, je pense, éclairé par Dieu, il a dit, votre messe de Saint-Pie V, la messe Saint-Pie V qui est là, celui qui rajoute quoi que ce soit, eh bien, il est exclu de l'Église catholique, il est anathème. Et en faisant ça, il a décidé que un jour, la messe de Saint-Pie V ne suffirait pas. Il a décidé qu'un jour, la messe de Saint-Pie V ne suffirait pas, ce qui ne veut pas dire qu'il faudra la supprimer, parce qu'il a dit que cette liturgie aura lieu jusqu'à la fin du monde, mais qu'elle ne suffirait pas. Puisqu'on n'en rajoute rien. Alors du coup, il faut qu'il y ait une marque. Et c'est ça, le Concile Vatican II, je pense. Enfin, c'est ça, Jean-Paul II, et puis l'application, je veux dire, surtout, qui compte. Le fruit. C'est qu'on récapitule tout, et puis on garde avec Benoît XVI, bien sûr, le sacrifice de la messe, dans un rite extraordinaire. Mais on donne l'autorisation à ce sacrifice de la messe, de laisser implicitement, de manière ordinaire, dans une grâce de charité normale, toute fluente, toute surabondante, toute simple, toute profonde, toute implicite, toute féconde, enfin, je veux dire, toute extasiée, toute immaculée, quoi, de se répandre dans quelque chose de plus, quand même, que le baptême après la naissance. Et le baptême de l'eau, le baptême du sang, la Pentecôte, de l'Immaculée Conception et la Pentecôte du sang, c'est-à-dire du divin éternel brûlure agréé d'amour dans l'incarnation de notre vie, à titre de rédemption finale dans la Pentecôte de l'Immaculée Conception, dans la nature humaine tout entière. Il faut que la dernière goutte d'eau, la dernière goutte de sang se conjoigne. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout que, au contraire, le sacrifice de la messe extraordinaire se conjoint au sacrifice ordinaire de la messe des noces de l'agneau. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pour ça qu'on voit que, c'est là qu'on voit que Saint Jean-Paul II est le Saint Jean-Baptiste du cinquième saut d'Apocalypse. Il l'est, puisque c'est lui qui enseigne la sponsalité. C'est lui qui ouvre les secrets et les trésors de la doctrine du divin fiat et du royaume de la divine volonté. C'est lui qui a ouvert ça, qui a ouvert ses portes, lui qui a canonisé son père spirituel. C'est lui qui a expliqué où était le Saint des Saints. C'est lui qui a ouvert la guerre eschatologique finale, officiellement et ouvertement. C'est lui qui a indiqué où était le champ de bataille, dans le Gédon, dans la Memoria Dei, dans la liberté du don originel. C'est lui qui a remercié tous les prêtres qui utilisaient les sacrifices ordinaires de la messe, pour que dans le même acte, ils disent explicitement ce qu'ils portent implicitement dans le sacrifice de Saint-Pie V, et qui plonge ainsi dans l'union des deux, et qui s'ouvre le temps d'ouverture du baptême qui va de la conception à la naissance. Il y a un baptême. Et c'est une nécessité parce que ce baptême, du coup, appelle tous les hommes qui sont adultes à eux aussi se plonger dans ce baptême. presque. Il ne faudrait pas une nouvelle liturgie. Voilà. Vous avez reçu le baptême après votre naissance ou adulte. Mais maintenant, on va faire un deuxième baptême. Voilà, on va faire un deuxième baptême pour baptiser ce qu'il y a de votre baptême, justement sacramentel, mais en plongeant toute votre humanité qui était sans ce baptême jusqu'au jour du baptême. Voilà, on ne va pas faire une deuxième liturgie, c'est pas la peine, c'est pas ça. C'est pas une question de liturgie. Pourtant, il y a eu quand même un signe. Saint Jean-Baptiste, il a fait un baptême qui avait une visibilité quand même. Et les gens, ils se mettaient là, ils les baptisaient. Et ça a été visible quand même, quand Jésus était là, le ciel s'est ouvert. Donc celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière est impropre pour le royaume de Dieu. Alors il me dit, voyez, ne vous occupez pas de ça. Regardez pas en arrière, n'allez pas retourner à votre conception. C'est précisément le contraire que dit Jésus. Il dit précisément le contraire de ça. Il dit justement, c'est parce que il y a cette nostalgie du paradis terrestre, dans le nouvel âge, dans la gnose, le démon voudrait nous faire revenir dans un état, j'allais dire, de plasma brahmanique. Voilà, immaculé, paix, bonté, compassion universelle, lumière. Mais dans l'esprit. Mais l'esprit de qui? L'esprit de celui qui est le prince qui actue le diaphane cosmique de notre univers. Et le prince de ce monde, ce n'est pas Dieu. Et donc, cela aussi, dans le monde nouveau, doit être sous l'autorité du Christ, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et donc, il faut que les enfants qui ne sont pas nés puissent être embrasés par le royaume de Dieu, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils reçoivent. Et il faut qu'à leur suite, du coup, les portes étant ouvertes, de cet horizon, de ce monde, de cet univers, de la memoria dei, assoiffé de l'innocence crucifiée, triomphante, divine de Jésus, dans son union hypostatique, désirée dès le départ, et de l'immaculée conception dès le départ, et de la conception aussi de Saint Joseph, immédiatement à l'instant d'après, rédemptrice dès le départ. Le 3 en 1, non, 3. La Sainte Famille est glorieuse. Et donc elle va nous redonner au jour du cinquième saut de l'Apocalypse ces trois en un en trois pour que ça puisse, qu'on puisse s'y plonger, s'y engloutir pendant une demi-heure. Il faut le faire avant que ça n'arrive. Il faut s'y baptiser mystiquement avant que ça n'arrive. Et le faire explicitement de minuit à 3h du matin avant que ça n'arrive. Et c'est là qu'on voit que Saint Jean-Paul II, c'est lui le grand Saint Jean-Baptiste, du cinquième saut d'Apocalypse. Nous ne suivons sa père. C'est pour ça que les dieux qui le suivent s'effacent. Pour montrer que celui qui est derrière eux, c'est celui qui passe devant, si je puis dire. Alors, évidemment, est-ce qu'il faut une formule pour ça? Non, je crois pas, il n'y a pas de formule. La formule est toute simple, c'est le baptême. Ab Elohim, Ben Elohim, Rakades Elohim. C'est le Shabbat de Rabbes, le Shah, c'est l'absolution dans le temple. Dans le temple. L'absolution dans le temple. Le terrain de bataille, c'est le Saint des Saints, la paternité ouverte désormais de Dieu. Et on s'y introduit, on s'y engloutit, quoi. On s'y engloutit, c'est ça le baptême, on s'engloutit dans le Saint des Saints, la paternité vivante et ouverte de Dieu. Dans une essence crucifiée, suppliante, assoiffée, demandant ce baptême à chaque instant, à chaque moment, dès qu'on y pense. Et pour le temps, et pour l'éternité, et pour tous en même temps. Alors, on baptise à tour de bras. C'est-à-dire, on se plonge à tour de bras. Avec la nature humaine tout entière, en commençant par ce, bien sûr, pour qui l'Église a demandé, Saint Paul II, qu'on le fasse explicitement à chaque messe ordinaire, en se congénant à la messe extraordinaire du sacrifice. C'est un peu comme un glaive à double tranchant, l'Eucharistie, maintenant. Un glaive extraordinaire et un glaive ordinaire, c'est-à-dire un glaive immaculé, un tranchant immaculé. C'est le glaive ordinaire. Il y a un glaive extraordinaire. C'est l'union hypostatique des cieux de Jésus. C'est un seul glaive. On ne peut pas séparer l'extraordinaire et l'ordinaire, puisqu'ils sont dans la main de celui qui chevauche, j'allais dire, le cheval blanc d'Apocalypse. C'est un glaive à double tranchant. Qui sort de la bouche du Saint-Père, de la bouche du Messie, du Christ, du Verbe de Dieu. Et la bouche du Verbe de Dieu, c'est la parole infaillible du corps mystique de Jésus vivant et entier. Alors laissez les morts enterrer leur mort. Laisse tes enfants, ne t'inquiète pas de ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils auront assez d'argent, est-ce qu'ils vont se débrouiller, est-ce qu'ils vont savoir résister, est-ce qu'il y aura la guerre, est-ce qu'ils ne seront pas... Laisse. Occupe-toi de leur baptême, c'est tout. Occupe-toi de celui qui t'engendre et non pas créé. Et mets tout ton amour dans celui qui t'a engendré, non pas créé. Et dans ces torrents de celui qui t'a engendré, non pas créé, déverse les eaux divines et éternelles des noces de l'agneau, l'accueil du paraclet sur la nature humaine tout entière. Ne t'inquiète pas, Dieu s'occupe du reste. Occupe-toi des sources de la vie. Ne t'occupe pas de tes enfants, c'est-à-dire des sources de la mort, des enfants confrontés à un monde de mort. C'est autre chose, ça. C'est pas en regardant ça en arrière, en disant, mes enfants, comment vont-ils s'en sortir? Est-ce qu'ils auront assez d'argent? Que tu pourras les aider. Et le royaume de Dieu n'est pas comme ça. Le royaume de Dieu, c'est la vie, c'est la liberté, c'est la libération, c'est la guérison, c'est le vol libre du Saint-Esprit. Amen. Credo in un